Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Aujourd'hui, mercredi, nous avons la chance, et j'ai la chance aussi, que notre chroniqueur soit Jean-Sébastien Laliberté. Je dis ça parce que j'en ai besoin aussi de lui pour l'émission, donc je le flatte.
Ce n'est pas qu'une chance, c'est un privilège également, avouons-le.
C'est un privilège. Alors, je vais essayer de le prononcer comme il faut, donc pour sa chronique, les moments Schadenfreude.
Oui, c'est bien, hein? C'est bien, bravo.
Oh, je m'y fais de mieux en mieux, qui porte sur les prix Darwin. Si vous ne savez pas ce que c'est, Jean-Sébastien va se faire un plaisir de vous faire un petit rappel de tout ça. Ensuite, nous allons au Musée des Beaux-Arts, nous allons recevoir Iris Amiziev, qui est conservatrice des arts interculturels au Musée des Beaux-Arts, et elle va nous parler de l'exposition Écologie, que je n'ai pas encore vue, mais qui a l'air d'être une expo absolument magnifique. Ode à notre planète. D'ailleurs, elle dure jusqu'au 27 février 2022, donc vous avez encore le temps d'y aller. Elle va nous parler de deux expositions. La deuxième, c'est La Dérive. C'est une installation du collectif Incognito sur l'avenue du musée avec poème de la merveilleuse Joséphine Bacon. Donc, ça va être un grand moment de bonheur, n'est-ce pas, Jean-Sébastien?
Oui, oui, bien hâte d'en apprendre plus.
C'est pas parce que tu te prépares pour ta chronique démente que qu'après je vais te cultiver avec le Musée des Beaux-Arts.
Mais non, je ne m'en tirerai pas si bon compte.
Alors, on part en musique. Et là, on part en musique avec Alex Pic qui nous chante « Payer le prix ».
C'est trop dur de rester simple. C'est l'usure du verbe être. C'est trop dur de rester humble. C'est l'argent que tu es le bonheur. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix trop cher. J'ai payé le prix, c'est l'enfer. Le futur incertain me ramène à l'instinct. Les blessures sur ton cœur me rappellent de prendre soin. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix trop cher. J'ai payé le prix, c'est l'enfer. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix trop cher. J'ai payé le prix, c'est l'enfer. C'est l'usure du verbe. C'est trop dur de rester humble. C'est l'argent qui tue le bonheur. C'est l'argent qui tue le bonheur. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix trop cher. J'ai payé le prix, c'est l'enfer. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix, c'est l'enfer. Qui nous sommes, qui nous? 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 Qui nous sommes, qui nous?
Roulement de tambour, mesdames, messieurs, ouvrez bien vos écoutilles. C'est Jean-Sébastien Laliberté qui nous parle des moments Schadenfreude.
Vraiment, l'accent s'améliore de semaine en semaine.
J'arrive à le dire tellement bien que maintenant je recommence et j'y prends plaisir.
C'est excellent. Schadenfreude, on rappelle à ceux qui n'étaient pas à l'écoute la semaine dernière, expression oui. allemande qui signifie la joie malsaine qu'on éprouve en observant le malheur d'autrui. Je ne referai pas l'hystérique intégrale de ben, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, l'émission est disponible en balado. Ou renseignez-vous, faites
oui,
vos recherches comme on l'a dit.
L'émission de la semaine dernière.
Donc, il faut voir vraiment cette chronique un peu comme une compilation de gens qui chutent ou à qui arrivent des accidents. Ça nous arrive à tous, je pense, de regarder des vidéos sur Internet ou à la télé et de trouver ça oui. drôle, les péripéties des autres. À la différence près que dans cette chronique, les conséquences sont une tantinet plus graves.
Mortelles, disons le mot.
Ben oui, un lauréat des prix Darwin ont contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain par leur fatale stupidité. On rappelle les 5 critères pour mériter ce prix posthume la très grande majorité du temps. Il faut être en incapacité de se reproduire. Généralement, ça se conclut par la mort. La personne candidate doit avoir un jugement étonnamment stupide. Donc, il ne faut pas simplement mourir dans des conditions stupides. Il faut que ça soit exceptionnel. Il faut être la seule victime de sa grossière incompétence.
Ah oui,
ou en tout cas, ça peut
mieux.
Être un effort de groupe, mais ça ne peut pas impliquer quelqu'un d'innocent qui passe à proximité. Il faut être adulte. Et l'histoire doit bien sûr être vraie.
C'est, oui, ça, mais quand oui, même. C'est le principe. Alors...
Alors, on y va tout d'abord avec une histoire qui a un air de mauvaise blague. Nous sommes au mois d'août en 1995 au village de Nazla Imara, à près de 400 km du Caire, en Égypte donc. Un fermier de 18 ans est descendu dans un puits de 60 pieds, environ 18 mètres, afin de sauver une poule qui était tombée.
C'est déjà un beau geste au départ.
Oui.
Ça partait d'un bon sentiment.
Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper un oiseau. Je sais que Mathieu a une voisine, lui, qui a déjà perdu ses poules dans la ruelle et apparemment que c'était tout un spectacle de courir après ces volailles-là. Donc, le fermier veut faire un bon geste et aller sauver la poule qui est tombée dans le puits. Il s'est finalement noyé dans le puits. Puis, ses deux frères et sa sœur ont descendu un après l'autre pour le secourir. Avec un résultat identique.
Quelle horreur!
Enfin, deux autres fermiers sont intervenus et eux aussi se sont noyés. Donc, les corps des 6 furent repêchés par la suite. Jusque-là, c'est une histoire assez triste. Et j'aurais aimé terminer sur une note un peu plus sympa en vous disant qu'au moins le poulet était encore en vie après tout ça, car ironiquement, il l'était. Mais nous sommes en août 1995, donc la vie étant ce qu'elle est, ça fait plus de 25 ans. Il y a des fortes chances que le poulet ne soit plus de ce monde.
Quelle horreur! Je m'en veux de rire de ça, mais c'est très très drôle aussi.
Nous sommes le 30 juin, et ce week-end, dimanche plus précisément, nous serons le 4 juillet, qui est la fête nationale de nos voisins du Sud, les États-Unis, et qui dit jour de l'indépendance, dit célébration. Et on le sait que lors de ces grandes fêtes nationales, on aime bien voir sa famille, ses amis, parfois boire un peu et manger tout en fêtant, ou encore boire beaucoup en fêtant, beaucoup trop. Alors on s'en va à Eaton, aux États-Unis. 3 hommes ont connu une fin à la fois prévisible et totalement imprévisible. La partie prévisible est donc la toute fin. James, Billy et Ashley ont été retrouvés au petit matin dans leur camionnette qui avait capoté avec plusieurs canettes de bière vides dans le véhicule. Mais comment en sont-ils arrivés là et pourquoi est-ce digne d'un prix Darwin? Parce que l'alcool au volant, c'est, on s'entend tous pour dire que c'est stupide, mais ce n'est pas non plus...
Non, c'est déjà vu.
C'est, oui, malheureusement. Oui. Donc, ces messieurs ont passé la journée à boire et en fin de soirée, pendant les feux d'artifice, ils ont eu faim. Et apparemment que se faire livrer une pizza aurait été beaucoup trop simple. Ces messieurs voulaient de la viande, ils voulaient des côtelettes de porc. Et la meilleure façon de satisfaire leur estomac, c'était bien évidemment, comme vous et moi, Arlette, ferions sans l'ombre d'un doute dans pareille situation, d'aller voler un cochon vivant pour ensuite le tuer, en extraire les côtelettes, faire cuire. Bref, un plan qui nous permet assurément de manger en moins de 20 minutes, n'est-ce pas? Ils se sont donc rendus sur une ferme, ont attaché une corde autour d'un petit cochon de 400 livres, soit près de 200 kg. Le cochon ne s'est bien sûr pas laissé faire.
Encore heureux?
Il devait être en train de dormir, on peut l'imaginer et le comprendre. Et après une partie de souk à la corde, une clôture de 14 pieds vint à tomber avec vacarme. Les autres cochons affolés se sont mis à ruer partout. Le fermier sort dehors avec son fusil, tire dans les airs pendant que les voleurs tentent de charger leur butin tant bien que mal dans la boîte du camion. Ils finissent par partir à toute allure. Le cochon continue de se débattre dans la boîte arrière du camion, faisant voguer le camion à gauche, à droite, à gauche, à droite. Le cochon est finalement éjecté, mais il est encore attaché au camion par la corde. Il se fait traîner derrière sur une distance d'environ 1 km. Et traîner une ancre de 400 livres, ça doit quand même affecter la conduite d'un véhicule. Ils finissent par franchir un dos d'âne à une vitesse beaucoup trop élevée. Le camion fait des tonneaux. Les hommes sont éjectés car, bien sûr, eux n'étaient pas attachés. C'est ainsi que se termine leur histoire.
Mais est-ce que le cochon était toujours vivant?
Le cochon a survécu. C'est tout ce qu'on voulait savoir, bien sûr.
Ah non, mais c'est absolument horrible. D'abord,
oui.
L'idée, ne serait-ce que l'idée d'aller voler un cochon. Il fallait qu'il soit gravement saoul quand même. Hein?
Ben quand même.
Et
hein?
Même bien éméché. Pour avoir une idée pareille,
peut-être d'avoir envie de manger une chose en particulier,
oui.
mais le trouble que ça a d'aller voler le cochon, déjà là, on est dans le crime. Ensuite, une fois qu'on l'a attrapé, il faut le dépecer, le tuer, le couper, le faire cuire. C'est tellement pas un plan simple.
N'en dis pas plus.
D'accord, donc on reste quand même dans le règne animal pour cette prochaine histoire. Il y en a certains qui aiment les chats, d'autres les chiens. Les messieurs précédents préféraient le cochon, mais certains aiment un peu plus d'exotisme. À New York, dans le Bronx, Grant, un jeune homme de 19 ans, était bien ami avec Damien, un Molorus bivatatus. Un python birman.
Qui c'est? Ah! Oh.
Un python birman de 3,65 m, pesant 45 livres.
Oh.
Et comme les autres serpents de son appartement, Damien vivait en liberté. Donc déjà là, je prends une pause. Les autres serpents. Il n'a pas qu'un seul python birman. Il a plus d'un reptile dans son appartement et ils vivent en liberté.
Mais c'est complètement dingue.
C'est en effet, moi je ne serais pas à l'aise de vivre, de dormir à côté de, ben ne serait-ce que
mais
des couleuvres.
C'est ça, mais c'est que le jeune homme a peut-être un problème.
Et il lui donnait un poulet par semaine pour le nourrir. Donc nous sommes ce jour-ci le jour du repas et Grant est en train d'apprêter le poulet pour le nourrir à son bon ami Damien. Est-ce que c'est parce que les mains du jeune homme sentaient le poulet? Est-ce que Damien avait vraiment beaucoup plus faim qu'un simple petit poulet? Est-ce encore parce que le serpent était amoureux de la copine de Grant et voulu le faire disparaître par jalousie? Je vous rassure, en partie, le jeune homme Grant n'a pas été dévoré, mais il faut savoir que les pitons, comme plusieurs autres serpents, écrasent avec leur corps leurs victimes avant de les manger. Les secours sont arrivés donc avant que le serpent ne le mange, mais malheureusement trop tard pour sauver ce jeune homme. Pour la partie plus rationnelle de l'histoire, on tient à préciser que non seulement ce genre de serpent devrait être, sans grande surprise, gardé en captivité.
C'est sûr.
Et pour un serpent de cette taille, on recommande généralement 3 personnes pour le nourrir, pour éviter ce genre de scénario. Donc lui, on parle de 3,65 m, environ 12 pieds. Apparemment que pour une personne seule, un serpent de 6 pieds, on peut le nourrir seul. Et ensuite, ça prend une personne additionnelle pour chaque 3 pieds. Donc, à chaque fois qu'on rajoute un mètre, on rajoute un autre être humain pour nous aider à nourrir cet animal.
Non, mais attends, mais on n'a pas un animal comme ça. C'est aux États-Unis, quoi. C'est de la folie. T'as pas le droit d'avoir un animal comme ça dans ton appartement.
Il y a sûrement des règles. Je suis pas mal certain qu'au Canada, il y a des règles. Aux États-Unis aussi, il y a sans doute des règles, mais ça doit varier d'état en état. Donc, à savoir, est-ce que c'est possible d'avoir, de un, des animaux exotiques, de deux, de les laisser vivre librement dans l'appartement? Je n'en suis vraiment pas certain.
Bon alors, une petite pause en musique là, parce qu'il faut que je respire un peu. Donc, on part avec Nancy Sinatra qui nous chante Bang Bang.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down.
Et voilà, bang bang. Bon, alors de concert, nous retournons au musée des horreurs avec Jean-Sébastien Liberté.
Quelle entrée en matière, bang bang.
Écoute, excuse-moi, mais là, c'était tellement... autant dire que ton serpent m'est resté sur l'estomac.
D'accord, alors on va quitter les États-Unis pour une histoire.
Il n'y a rien qui se passe au Canada? Dis pas qu'on est tout propre, quand même.
On peut... Oh ben, commençons par le Canada. On m'a fait remarquer, justement, que plusieurs de ces histoires sont aux États-Unis, mais ce pays n'a pas le monopole pour les prix Darwin.
Je m'en doute. Et après, en Europe, un petit peu, faut qu'on mélange.
Allons voir à Toronto, le 9 juillet 1993, à la Toronto Dominion Bank Tower. Maître Gary Hoy, un avocat de 39 ans de la firme Holden Day Wilson, a son bureau dans cette tour au 24e étage. Il voit souvent des étudiants, peut-être des futurs stagiaires. Maître Hoy avait l'habitude de ses visites et il aimait bien peut-être faire le cabotin, peut-être démontrer que, comme toutes les banques, cet édifice est impénétrable, les fenêtres sont totalement incassables. Et le 9 juillet, pendant une visite, Gary Hoy fait la même chose qu'il a déjà fait à moult et moult reprises par le passé. Il court et il fonce vers la fenêtre du 24e étage pour montrer aux étudiants, voyez, cette banque est totalement solide et les fenêtres sont incassables. Et surprise, la fenêtre ne se casse pas. On s'attendait tous, évidemment, avec cette entrée en matière, qu'elle casse. Mais peut-être que vu que ce n'était pas ni la première ni la deuxième fois qu'il faisait cette démonstration à cette même fenêtre, le cadre de la fenêtre en entier a lâché. Donc Gary Hoy et la fenêtre intacte ont chuté du 24e étage.
Oh mon Dieu, la bêtise humaine. Mais il n'y a pas de limite.
Et il a fallu rappeler par la suite qu'aucun code de bâtiment au monde ne recommande de se lancer contre une fenêtre de façon répétée. Ce n'est pas à ça que servent les fenêtres. Ce n'est pas ça qui est pris en compte quand on construit un édifice.
Mais quelle stupidité! Il y a tellement d'autres manières de prouver... Enfin, quelle stupidité.
Et voilà, ce n'est pas parce qu'on est avocat et qu'on a fait des études qu'on est à l'abri de...
Comme quoi, n'ayez pas peur, si vous ne pouvez pas faire de hautes études, vous ferez peut-être moins de conneries.
On parlait de l'Europe, allons-y. Allez. Je ne compte plus le nombre d'histoires ou de films où on retrouve au courant du récit un chien qui, pour une raison ou pour une autre, se fait amener à l'arrière de la maison par son maître qui porte un fusil pour connaître une triste fin. Mais je n'aurais pas pensé que l'inverse eût été possible.
Ah, pardon? Que le chien prend le fusil?
En Allemagne, en 1999, dans une réserve de chasse et pêche dans la forêt noire, on est plus ou moins dans une pourvoirie, donc une réserve où on peut
magnifique,
payer pour aller chasser et pêcher avec son permis. Et puisque c'est une réserve, il y a des fortes chances qu'on reparte avec quelque chose. Donc, un homme de 51 ans a été retrouvé étendu à côté de son auto. Et après une enquête probablement digne des meilleures aventures de Joseph Rouletabille, le protagoniste des romans de Gaston Leroux, il fut déterminé que le fusil était chargé, déverrouillé, placé près de la fenêtre, et le chien aurait mis la patte sur l'arme. Pam! Donc, c'est quand même... Il faut... Une arme, faut toujours garder ça verrouillé, on le rappelle, oui. Sauf quand oui. c'est le temps de s'en servir et de oui. la laisser placer comme ça. Bref, ce n'est pas une bonne pratique, dirons-nous.
Non, mais c'est insensé, quoi. Ça pas...
L'histoire ne dit pas si le chien a pu conserver le trophée sur son mur.
Mais le chien n'a pas été arrêté.
Le chien n'a pas... Mais non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de crime, seulement un accident dont le chien était responsable, si on peut le dire ainsi.
Quelle horreur. Mon Dieu, quelle horreur.
Ma connaissance, on va changer encore une fois de registre totalement. Et puisqu'on a déjà fait notre tour à l'international, revenons au pays de l'oncle Sam.
Ah, très bien, allez.
Ma connaissance de la guerre civile est assez mince, mais pour ceux qui se sont intéressés à l'histoire américaine, peut-être que le nom de Clement Vallandigham dira quelque chose. C'est un démocrate qui était bien opposé à Abraham Lincoln, lui qu'on connaît, et qui, contrairement à la croyance populaire, était un républicain. Il était contre l'esclavage, et bref... Le monsieur Vallandigham finira par se faire bannir de Washington parce qu'il était un traître à la nation et toutes ces belles choses qu'on a pu se faire accuser pendant la guerre civile. Donc nous sommes en 1863. Et monsieur Vallandigham s'est recyclé après la guerre en avocat. On retourne déjà au monde des avocats. Il a terminé sa carrière avec fracas alors qu'il était en cour et qu'il défendait un homme accusé de meurtre. Selon la défense, la victime n'avait pas été assassinée, mais elle s'était tuée elle-même accidentellement. On le sait, de nos jours, plusieurs gens sont captivés par les méthodes scientifiques pour reconstituer un crime. À preuve, toutes NCSI, CIS et toutes ces autres émissions policières qui font grand tabac sur les chaînes de télévision.
J'adore.
Donc, Maître Vallandigham, en 1863, n'avait peut-être pas les méthodes pour reconstituer le tout par ordinateur. Il a voulu démontrer que son client disait la vérité. Il a donc fait la chose la plus rationnelle. Il a pris l'arme du crime qui était en preuve et a montré que la victime aurait sorti son arme et accidentellement aurait tiré un coup. Il aurait peut-être été préférable pour lui que l'arme ne soit pas chargée pour la démonstration, car Vallandigham a subi le même sort que la victime et décéda en cour devant les yeux du jury. Mais, pour une rare fois, on a une fin partiellement heureuse. Son décès aura tout de même permis d'innocenter son client.
Mais tu te croirais dans les meilleures blagues de... Je sais pas, si on faisait un recueil de blagues stupides, ça en ferait partie.
Mais tellement...
Cette histoire-là est absolument invraisemblable. Quoi.
Vraiment, et elle fait partie des livres d'histoire américains. En tout cas, de certains, parce que maintenant, les livres sont tellement édités, je ne sais pas s'ils ont gardé ce passage, mais oui, l'histoire est pleine de personnages de ce genre.
Vraiment, pas regarder qu'une arme est chargée ou pas chargée, et puis vouloir répéter ça en cours, mais ça craint quand même. Même si c'est en 1880. Une petite dernière, vite fait.
Je vais la garder. Plutôt que de la passer trop vite, je vais la garder en banque.
Parce qu'elle est alléchante, alors elle sera pour la prochaine
fois. On
n'aura
pas le temps de la rire. Si je fais juste la raconter rapidement, on n'aura pas le temps de bien la savourer. Donc, on se la garde en banque pour la semaine prochaine. La question de vous donner l'eau à la bouche. Il est question de bungee. Même si je vous ai dit la semaine dernière que les sports extrêmes ne font pas partie des Darwin Awards, eh bien, à l'occasion, il y aura peut-être des exceptions. Et pour en savoir plus, on se retrouve à ma prochaine chronique de moment Schadenfreude.
Voilà. Ah, merveilleux. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Maintenant que tu m'as bien mis mal au cœur, eh bien, écoute, partons en musique avec...
Lisa Leblanc. Lisa Leblanc et une pièce qui tombe bien à propos aujourd'hui, Ifa Chaud.
Il fait chaud, ça sent le fantôme, le chauffage du soleil qui rôtit nos peaux. On se chiffonne dans la journée, on se lance toutes comme des cinglés sur les plages de Chidiac ou de Capelé. Il fait chaud, les oiseaux sont sortis, je trouve ça bien trop beau. Jusqu'à ce qu'ils me réveillent le samedi matin, puis que je pète ma coche, puis je vais tirer des roches. Il fait chaud, c'est le festival des grands bédaines, puis des touristes dans des speedos fluo. On se met une nouvelle couche de peinture après que l'hiver nous a déteint.
Surtout, restez avec nous parce que on part en visite au Musée des Beaux-Arts de Montréal dans un instant. À tout de suite.
Les Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah.
Il n'a pas de couleur, je suis un enfant de la terre. Sur la terre sacrée, on a marché pieds nus. Au fil des saisons, on a compté les lunes. On a su lire le ciel, en guise de boussole. À qui le respect, car l'homme n'est pas seul. On calculait le temps grâce au soleil. Transmettait notre histoire de bouche à oreille. Mon pays n'a pas de drapeau, car on est tous les mêmes derrière nos couleurs de peau. Connectés à la voix du créateur, guidés par les oiseaux migrateurs. Aborigène à mes ancêtres, j'ai obéi. Lié à la terre, en parfaite harmonie, porté par elle, je retournerai poussière. Je suis un enfant de la terre. Une mère nourricière, porteuse de vie, des forêts en guise de pharmacie. Depuis toujours, on se nourrit de la terre, d'air, de la mer, des lacs et des rivières. Des millénaires sans besoin matériel, juste un chemin éclairé par le ciel. Une poussière qui a fait naître l'âme, un souffle de vie porté par la femme. Mon pays, je le porte à l'intérieur de moi, et je n'oublie pas les peuples d'autrefois. On n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. De toute façon, cette terre n'est pas à nous, on est à elle, on forme un tout. Ici, je suis qu'une âme passagère. Je suis un enfant de la terre.
chez moi, c'est chez toi. Tout ce qui compte, c'est de savoir où l'on va. Un cycle de vie toujours en mouvement. Des nomades transportés par le vent. Au climat, on a su s'adapter. Dans les pires conditions, la femme a dû enfanter. À la famine, on a survécu. Malheureusement, certains peuples ont disparu. Nos erreurs ont servi d'apprentissage. Autour d'un feu, on écoutait les vieux sages. Une sagesse connectée à l'esprit. Leur voix était utile à la survie. À mon pays, je reste enraciné. Dans ma tête résonne la voix des aînés. Un jour, j'irai rejoindre mon père. Je suis un enfant de la terre.
Alors on vient d'entendre Samiane qui nous chantait « Enfant de la terre ». Quelle belle chanson! Et quelle belle chanson pour accueillir notre invitée dont je vous parlais en début d'émission, donc Iris Amiziev qui est avec nous, la conservatrice des arts interculturels du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bonjour Iris.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oh, ça va très bien. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Quel plaisir de vous recevoir. Alors on va parler de deux expositions et on va commencer avec l'exposition Écologie. Savez-vous Iris, j'ai honte de le dire, mais je ne suis pas encore allée. Et je vais m'y précipiter. Je vais m'y précipiter. Donc,
je vous invite. Écoute, elle est là jusqu'au mois de février. Alors, vous avez le temps et je vous encourage beaucoup d'y aller parce que c'est une très, très belle exposition. Et puis, c'est une exposition importante à cause du sujet.
Alors, cette exposition, il y a un sujet en particulier, ça me touche, ben, comme beaucoup de personnes, ce qui me touche le plus, c'est l'exploitation des ressources naturelles, bien évidemment.
Oui.
La question écologique, c'est absolument important. Plus vous nous parlez de tout ça et aussi d'une chose à laquelle on ne pense peut-être pas souvent, c'est la répercussion que ça a sur les peuples qui vivent près de la nature.
Ben donc, voilà, non, c'est vraiment, écoute, on est dans une crise environnementale qu'on n'a jamais vue. Ça a commencé bien sûr avec la révolution industrielle. Et vraiment, je dirais que le fil conducteur dans cette exposition, c'est l'impact de l'humain sur les écosystèmes, sur la planète, partout que ça impacte les eaux, les terres, l'air. Et ça crée des conditions vraiment dangereuses qu'on ne sent pas nécessairement toujours maintenant. Je pense aujourd'hui la chaleur épouvantable dans le
Ouest
du Canada. Ça, c'est tout vraiment des éléments qui ont été déclenchés par les humains. On change la planète,
c'est fou,
terrible.
Ça. Terrible.
Et c'est ça ce que l'exposition montre. Écoute, on a trouvé des, c'est vraiment une combinaison de photos et de dessins. Et c'est tout des œuvres de notre collection, une grande installation, des vidéos. Et vraiment, mais le sujet que je dirais qui est à travers toutes les œuvres qu'on a choisies, c'est vraiment l'écologie. Et il y a des sections qui sont merveilleuses. On montre vraiment, je dirais, la nature idyllique où tout est encore bien.
Tout est encore beau. Et...
Oui, et il y en a plusieurs comme ça, mais aussi il y a des zones. L'exposition, elle est divisée en thématiques. Comme le réchauffement bien sûr de la planète, il y a la disparition des espèces, l'impact justement sur la terre, il y a une autre section sur l'eau, on voit la pollution, on voit les accidents miniers. Et c'est vraiment une combinaison de toutes sortes d'images et de sculptures, mais vraiment l'idée, je voulais créer quelque chose de très beau, de très stimulant, qui va susciter la curiosité, mais quand même il y a un cri d'alarme. Il faut qu'on pense à ce qu'on fait à la planète et on ne le réalise pas parce qu'ici, on vit à Montréal, tout va bien, mais il y a des choses qui se passent comme dans le Nord.
Mais en même temps, Iris, je pense que on peut aller voir ça pour penser grand, mais il faut aussi penser petit à notre niveau à nous et commencer à faire des petites choses, parce que toutes ces petites choses multipliées par le nombre de personnes qu'il y a autour de nous, ça peut faire ça peut changer. Ça
Je
peut
suis
aider.
Tellement, tellement d'accord avec vous. L'idée, par exemple, comme le recyclage. Il y a même une section dans l'exposition qui il y a des œuvres qui ont été créées avec des objets recyclés pour montrer justement qu'on peut garder les choses et créer quelque chose de nouveau avec, you know, une nouvelle configuration. Mm. Alors il y a une œuvre par Serge Murphy qui utilise même des morceaux de papier presque jetés, mais il est en les configurant dans cette installation des petites sculptures sur le mur, ça devient magnifique et ça nous montre ce qu'on peut faire avec les objets et les matériaux recyclés. Alors c'est vrai que ça c'est une chose qu'on peut tous faire, utiliser le papier des deux côtés, des petits gestes comme ça, arrêter avec les choses en plastique, les fourchettes.
C'est ça. Iris, on a notre chroniqueur et néanmoins technicien de l'émission qui a une question pour vous.
Oui, parce qu'il faut pas oublier que, avant ma question, il ne faut pas oublier que la planète, elle, n'a peut-être pas besoin qu'on fasse des efforts, mais la vie humaine, dans les conditions telles qu'elles sont, c'est plus ça, c'est la survie de l'espèce humaine, entre autres, qui est mise en danger par nos actions et nos inactions.
Exactement.
Mais je voulais savoir, de par cette exposition-là, on a l'impression qu'il y a un nouveau courant, que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus qui inspire de plus en plus les artistes. Mais est-ce que c'est réellement nouveau ou ça fait longtemps que les artistes ont une conscience écologique et que ici et là, sans que ce soit nécessairement ramassé dans une collection, dans une exposition spéciale?
Oui, c'est une super question. Je vais vous dire que, par exemple, la crise environnementale en ce moment, c'est dangereux. On est menacé par ce qui se passe sur la planète. Mais c'est sûr, par exemple, à la fin des années 60 et 70, il y avait une forme d'art qui s'appelle le land art. Et ça, c'est des artistes qui ont commencé à réaliser ce qui se passe, justement, et qui ont créé des grandes œuvres dans les milieux du désert. Par exemple, il y a Robert Smithson qui a créé un spiral dans un lac saliné. Alors ça, c'est en utilisant les matériaux naturels pendant cette forme d'art, on pensait justement au fait, comme je parlais du recyclage, l'usage des matériaux naturels est une façon justement de collaborer avec la nature au lieu d'aller contre la nature, vous voyez. Alors ça a été quelque chose qui a été fait depuis longtemps, mais depuis les années 70, écoute, le monde a changé.
Mm-hmm. Ah bah oui.
C'est devenu de plus en plus pire et il y a encore l'art environnemental. Il y a des œuvres dans l'expo. Il y a un vidéo par Paul Walder. C'est vraiment une œuvre, c'est une installation vidéo d'une composition musicale et une performance qui était spécifique sur le site, sur le glacier Farnham en Colombie-Britannique. Mm-hmm. Alors là, il prend quelque chose. C'est pas une photo, c'est vraiment littéralement, on rentre dans une salle et puis on voit cette scène extraordinaire. Il a trouvé des... et d'ailleurs, le message, je vous raconte ça parce que le message, il est tellement extraordinaire. C'est comme une commémoration, un hommage à une zone qui était menacée par les changements climatiques, un glacier qui s'appelle Glacier Farnham. Et aussi, il y avait des planifications pour faire un centre de villégiature sur ce terrain magnifique. Et pour l'artiste, quand il a réalisé ça, il voulait commémorer la région, mais aussi montrer le fait que qu'il fallait penser à ce qu'on fait. Imaginez que ce glacier était non seulement menacé par les changements climatiques, mais c'est sur une zone qui est sacrée à un peuple autochtone, les Ktunaha, et aussi juxtaposé à une place pour les ours grizzly, pour les protéger. Alors c'est fou qu'on pense que c'est l'argent qui est plus important que la planète, que les animaux, que les peuples, you know, une zone sacrée, on peut pas toucher ça, vous voyez. Mmh. Alors les artistes depuis longtemps pensent à ça et puis ils essaient de nous montrer ça de toutes sortes de manières, comme je vous dis avec le Requiem pour un glacier, ce vidéo, I mean. Ce qu'on voit, c'est qu'il a trouvé 50
musiciens, j'ai vu, pour participer.
Qui ont escaladé.
Extraordinaire.
Écoute, et puis ils chantent pour le glacier. Ils performent une journée. Ils ont préparé ça pendant des mois, bien sûr, mais là, ils ont escaladé âgés entre 12 à 84 ans. C'est des bénévoles qui ont escaladé pendant un jour. Écoute, j'ai vu ça la première fois. Je vous conseille, il faut le voir.
Ça donne un frisson, hein?
Oh non, écoute, moi, j'avoue, chaque fois et encore, littéralement chaque fois que je le vois, je deviens émue. C'est tellement puissant, c'est un geste tellement extraordinaire par cet artiste. Heureusement, je vous donne les bonnes nouvelles que l'œuvre était de 2013. En 2020, les plans pour cette zone de villégiature ont été éliminés. Et puis, c'est une zone protégée, autochtone et pour les animaux aussi. Alors,
bravo.
Ça, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Mais c'est ça, écoute, on pense pas à ce qu'on fait à la planète. Dans le Nord, la glace est en train de fondre. Ça change la vie des communautés.
Bien sûr.
Les communautés inuites, les animaux qui sont dépendants de la glace. On pense pas à ça ici. Mais il faut changer les choses parce que ça fond deux fois plus vite que partout dans le monde. C'est vraiment...
très important. On va continuer à en parler. Mais merci de votre passion et de votre énergie parce que ça donne... Moi, en tout cas, c'est sûr que j'y vais au Musée des Beaux-Arts.
Je vous promets que ça vaut la peine.
Avant de parler de la deuxième exposition qui est La Dérive, on va écouter d'abord un petit extrait de la musique qui a été faite, puis on en parle tout de suite après ça.
Super, très bien.
La dérive.
Adrift.
C'est ma donata.
Mon esprit est séduit.
My spirit is enthralled.
Et catapoué. C'est d'une pique.
Ne laisse pas agoniser ta grandeur.
Do not leave your splendor dying.
C'est mort comme
toi, majesté des glaces.
Your majesty flows.
Tu n'es pas un par hasard.
You are not a random thing.
Apo. Et tiens nous des temps.
The sun draws near.
Le soleil s'approche.
Je t'appare.
And lets go a piece of your soul.
Et laisse partir un morceau de ton âme.
Ôte-moi, ça t'a coûté pistache.
Assis sur toi.
Sitting atop you, I'm adrift.
Je dérive.
More hope.
Oh mon Dieu.
Wow. Je suis tellement contente que vous avez. Je ne savais pas que vous allez le jouer pour le public. C'est magique, c'est merveilleux. C'est une œuvre extraordinaire.
Fabuleux.
Ce que vous voulez d'entendre. Et d'ailleurs, ça, c'est pas vraiment une exposition, c'est une installation immersive à l'extérieur.
C'est ça.
Qui est ouvert au public 24 heures, you know, c'est gratuit, c'est juste à côté, c'est sur l'avenue du musée, juste au nord de la rue Sherbrooke. Et c'est une création immersive du collectif Incognito. Chaque année, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis l'année 2013, le musée invite les créateurs et les designers montréalais de proposer des installations pour créer une ère pédestrienne pour les visiteurs du musée, pour les touristes, pour les Montréalais, pour tous. Et cette année, c'est le collectif Incognito qui a décidé de rendre hommage aux glaciers qui sont menacés par le réchauffement climatique. Et ce que vous venez d'entendre, c'est la première fois qu'on a un élément sonore que je trouve tellement extraordinaire.
Ah ben, c'est puissant, hein?
Vraiment.
Vraiment puissant.
C'est écoute, n'est-ce pas? Et alors, ce que vous faites, vous arrivez sur le lieu et il y a des codes QR. Les visiteurs peuvent, avec leur cellulaire, avoir accès pour écouter la poème
d'écouter. De Joséphine Bacon.
Alors, c'est ça, c'est Joséphine Bacon qui est conteuse, parolière, réalisatrice, ambassadrice de la culture des Premières Nations au Québec et partout. Écoute, et puis c'est elle qui le récite en Innu.
Oui.
En français, c'est André Robitaille, puis en anglais, c'est Laurence Leboeuf. Et comme vous avez aussi entendu, il y a les sons des glaciers qui sont en train de bouger.
Ah, mais ça, c'est impressionnant parce que, oui, j'avais l'impression de les avoir, que c'était dans mon dos, que c'était en train de craquer.
C'est ça. Et puis l'expérience, elle est vraiment extraordinaire. Je l'ai vécue quelques fois. Je conseille à tout le monde d'y aller. Autant écoute, parce que c'est un lieu qui, comme je dis, est gratuit. Et puis on est dans le milieu de la ville, mais c'est comme si on se sent dans le nord et entouré par un glacier. Et c'est une belle zone de, you know, il y a le jardin de sculpture autour. C'est presque comme un lieu de rencontre, de découverte. Et c'est vraiment extraordinaire. Sur le sol, il y a la peinture qui ont fait des glaciers.
Voilà.
Et c'est ça, l'élément sonore est éblouissant. C'est touchant.
Le glacier qui est en train de s'effriter, qui est en train de se fondre, qui est en train de se séparer.
Oui,
photos, c'est magnifique, vraiment.
Oui, ça vaut vraiment la peine. Et puis justement, ce qui est merveilleux, c'est que ça fait écho à l'exposition écologie, mais aussi à celle de Riopelle, qui est encore celle qui s'appelle À la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones, parce que Riopelle, il a voyagé dans le Nord, il a fait une série qui s'appelle Iceberg, Alors ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez voir en ce moment. C'est la grande exposition de l'été. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire et à voir, et ça vaut toujours la peine de venir. Mais la dérive, ce qui est merveilleux, c'est à l'extérieur. Et c'est aussi ce qui est spécial, c'est qu'on est pendant l'été. L'installation serait là jusqu'au mois d'octobre. Mais on pense à l'hiver à cause des glaciers. Alors, il y a une belle comme contradiction des sujets. Mais c'est vraiment important. Et puis, ça nous fait penser, justement. Écoute, le poème, il est tellement touchant. C'est triste. Sinon, les mots de Joseph Lacan sont absolument touchants.
C'est tellement beau. Et en plus, leurs trois voix comme ça, là, unies, c'est, avec le bruit, c'est extraordinaire.
Oui.
Hein, vraiment très,
oui,
très...
Oui, je suis d'accord avec vous. Oui.
C'est qui a eu l'idée de ça, de faire, de choisir ce poème et de mettre ce bruit. Ah bah oui, c'est le
collectif Incognito, et puis eux, ils aiment créer des moments poétiques, et juste, you know, ils sont passionnés par la création, et leur idée vraiment de faire ça, je trouve brillante, parce que c'est un sujet qui nous touche tous, et il faut y penser, il faut être sensible à ce qui se passe. Arrêter avec la pollution, les combustions fossiles, il y a tellement de choses qu'il faut faire que, you know, ensemble, tout le monde sur la planète, tous les grands, les gouvernements et tout. Et parce que c'est ça, c'est...
De toute façon, il faut bien qu'on considère qu'on arrive enfin à comprendre, comme le disait Jean-Sébastien très bien tout à l'heure, on ne pourra pas continuer à vivre de cette manière-là. La nature, elle restera, mais nous, on sera partis.
Ben,
donc,
c'est ça.
Si on veut rester un petit peu avec elle, un petit peu plus, il faut faire attention.
Oui. Il faut laisser la nature être naturelle au lieu de nous tout envahir et tout détruire. On est en train de détruire la planète sans le réaliser. Et puis c'est la nature qui perd, et c'est les personnes sur la planète qui perdent. Justement, c'est les personnes qui sont le plus connectées à la nature, qui sont le plus menacées, parce qu'eux, ils le sentent plus directement. Nous, on va en magasin, il n'y a pas de problème, on achète notre nourriture. Mais les Inuits, par exemple, s'ils veulent chasser un phoque, et puis il n'y a plus de phoques dans les places où ils se trouvent d'habitude, ou les morses ou les ours polaires, parce qu'ils ont, à cause des changements de température, ils migrent, ils bougent, ils ne sont plus où ils étaient avant. Ça rend la vie beaucoup plus difficile pour les personnes qui sont en contact direct avec la nature.
Oui, pour l'instant, c'est facile de se fermer les yeux d'une certaine façon, en se disant que ce n'est pas ici que ça arrive, que c'est ailleurs, c'est loin. Mais à partir du moment où ça va arriver ici et qu'il va y avoir exemple avec la fonte des glaciers, le rehaussement du niveau des mers, si l'île de Montréal, les rives commencent à déborder, quand ça va arriver, il va être un petit peu trop tard peut-être.
Ben, c'est ça le problème, c'est que on nous dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps et on ne le réalise pas. You know, il y avait la marche ici il y a quelques années où on pensait à tout ça, mais vraiment c'est urgent, c'est ça. Les expositions, c'est un cri d'alarme, je veux pas, you know, mais c'est vraiment, il faut penser au fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il faut se mobiliser et vraiment prendre contrôle de ce qu'on fait de néfaste et améliorer la situation et vraiment laisser... arrêter d'être juste pour l'argent et être plus pour la nature, pour la planète.
Ah, ça va être vraiment passionnant à aller voir. Donc, la première exposition dont on a parlé, on peut aller la voir jusqu'au mois de février 2022, c'est ça?
Oui. Et puis, la dérive serait là jusqu'au mois d'octobre. Et puis, elle est toujours là. Et puis, vous pouvez venir n'importe quand, la nuit aussi, et puis écouter ce magnifique poème et regarder les... Et il y a aussi des bancs. On peut s'asseoir sur les bancs ou se promener. Moi, j'ai fait les deux. Les deux sont également magnifiques. Et si on veut, on regarde autour. Et puis, il y a des sculptures extraordinaires autour de nous avec les beaux bâtiments du musée. C'est juste magique et ça vaut la peine. Et on pense à des choses importantes pendant qu'on a le plaisir de visiter.
Et vous m'avez donné une nouvelle idée. C'est vrai que je ne l'ai pas fait la nuit. Je suis toujours allée voir ces expos extérieures de jour. Et effectivement, ça peut donner une autre expérience et une autre sensation. Merci pour l'info. Tiens, je vais l'essayer de nuit.
Est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse si on est curieux et on veut aller essayer ça?
C'est sur la rue Avenue du Musée, juste en haut de Sherbrooke, devant le Musée des Beaux-Arts de Montréal.
D'accord. Et c'est accessible c'est accessible pour les personnes à mobilité réduite?
Oui, ce l'est absolument. Tout le musée, il l'est, oui.
Excellent.
Oui. Et je vous invite. Aussi les familles, hein, aussi pour les enfants, l'écologie. D'ailleurs, il y a beaucoup de sculptures. Toute l'exposition est importante pour toutes les familles. Mais aussi, il y a beaucoup d'œuvres que je pense vont beaucoup intéresser les enfants. Je peux vous dire, il y a une installation de bisons, il y a des animaux par les artistes inuits. Ça va attirer tout le monde.
Vous voulez que je vous dise, je crois que les enfants ou les ados savent plus avoir le cœur ouvert que nous.
Oui.
C'est plutôt nous qui devrions ouvrir nos...
C'est vrai.
Nos yeux, notre cœur là-dessus, parce que je trouve que les enfants, eux, ils le comprennent comme instinctivement.
C'est tellement vrai.
Alors,
oui,
il y a une bonne chose là-dedans. Eh bien, écoutez, juste un petit dernier mot. Qu'est-ce que ça recouvre, votre rôle? Et puis après, on se dira au revoir, parce qu'on arrive à la fin de l'entrevue. Conservatrice des arts interculturels, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est une bonne question. Écoute, en ce moment, c'est un rôle, je suis intéressée par toutes les arts parce que l'exposition que je viens de commissarier est vraiment sur l'écologie, mais les arts interculturels, c'est les arts qui proviennent de tous les pays, de toutes les cultures. Et mon rôle est vraiment d'ouvrir les portes à tous les artistes de toutes les cultures à Montréal.
Et Dieu sait s'il y en a.
Oui, il y en a beaucoup.
Et Dieu sait
s'il y en a. Extraordinaire. Oui. C'est vraiment des projets communautaires qu'on fait au musée, parce que pendant trop longtemps, le musée, pas juste le nôtre, mais partout dans le monde, le musée était assez enfermé envers les autres cultures. Et puis là, on est en train d'ajouter des œuvres.
On fait de l'ouverture, de l'ouverture dans tous les sens du terme.
Oui.
Eh bien, Iris Amiziev, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un grand, grand plaisir de vous entendre. Et j'ai envie de dire tous au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Voilà.
Un grand merci à vous on vous invite à venir au musée. Souvent, c'est merveilleux. C'est une place extraordinaire et puis il y a tellement de belles choses à voir.
Ça, c'est vrai.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Je prends mes affaires et c'est tout. De bas ou l'autre, le chemin est grand ouvert. On sait très bien qu'il ne restera rien de nous.
Formation comme dans un film et extrait de leur album La Lune est passée par ici. C'était la chanson Le Soleil aussi.
Merci beaucoup Jean-Sébastien. Écoute, on arrive à la fin de cette émission. Et merci encore à Iris Amiziev qui a été passionnée, passionnante, il faut le dire. Merci à toi Jean-Sébastien, parce que Jean-Sébastien Laliberté, hors d'avoir travaillé sur sa chronique, est aussi le technicien. On lui dit merci aussi pour les chansons qu'il a recherchées. Donc merci pour ton travail Jean-Sébastien. Et puis nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, avec d'autres personnes aussi passionnantes et aussi intéressantes. Passez une excellente journée. Au revoir.